Et nous allons lire l'Acte chapitre 8, Acte chapitre 8, versets 9 à 25. Acte 8, nous allons lire à partir de verset 9. Acte chapitre 8, verset 9 à 25. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et ils disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle le Grand, la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il est longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et non de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Celui-ci arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. C'est la parole de Dieu. C'est dans le livre d'Actes des apôtres que nous apprenons le commencement de l'Église. Quelqu'un avait dit que ce livre écrit par Luc, qui avait aussi écrit l'évangile de Luc, aurait dû être appelé les actes de Saint-Esprit. En effet, nous trouvons les actes du Saint-Esprit tout au long du livre. Si vous lisez attentivement ce livre, vous constaterez que l'Esprit-Saint est l'acteur principal tout au long de ce livre. Le chapitre 7 du livre des actes de l'apôtre se termine par le martyr d'Étienne, et le chapitre 8 commence par la grande persécution de l'Église primitive à Jérusalem. Et nous avons une simple introduction à un homme appelé Saül, qui, après sa conversion, deviendra le défenseur de la foi, même qu'il s'était efforcé de détruire jusqu'à sa mort. Nous voyons au début de ce chapitre que Saül dirigeait la persécution de l'Église de Jérusalem et que tous avaient fui la persécution, sauf les apôtres, les piliers de la vérité de Dieu et de son Église. Et sur les sept hommes choisis pour servir l'Église, Étienne avait été déjà lapidé à mort et nous sommes présentés à notre disciple appelé Philippe, qui a fui la persécution à Jérusalem et nous le trouvons en Samarie. Lisons à partir de versets 5 à 8 de Actes des Apôtres. 5 à 8, le même chapitre. Actes 8, 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles l'apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car l'esprit impur sortit de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Ainsi, ce que nous trouvons en Samarie est une chose merveilleuse pour l'évangile de Jésus-Christ. Mais Jésus n'avait-il pas promis ces choses à ses disciples avant de quitter cette terre? Il a dit en Actes chapitre 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1, 8. Et ce matin, nous n'allons pas en apprendre davantage de Paul, sur Paul ou sur Philippe, mais sur l'autre personne mentionnée dans notre texte, qui est un personnage très intéressant du nom de Simon. La Sainte Bible ne donne mystérieusement pas le nom des personnes qui ont fait de grandes choses pour Dieu, mais le nom de cet homme est mentionné, bien qu'il n'y ait aucune mention de lui ailleurs dans la parole de Dieu. Son nom, Simon, suggère qu'il était d'origine juive ou samaritaine. Nous pourrons très bien présumer que Dieu veut que nous souvenions de cet homme pour nous servir de leçon. Et nous nous souvenons de lui comme Simon, le sorcier. Il est intéressant de connaître cet homme parce que nous trouvons Simon encore aujourd'hui dans notre christianisme. J'ai cru comprendre qu'il avait créé un jeu vidéo au nom de Simon le sorcier. Je ne sais pas où vous connaissez. N'est-ce pas un détail intéressant? Un jeu vidéo au nom de Simon le sorcier. Les sorciers sont des praticiens de l'occultisme en contact sinistre avec le royaume des esprits. Simon a opéré en Samarie. Nous ne savons pas où il est né, mais certains pensent qu'il était un juif de Samarie. Alors arrivons à notre passage pour voir les leçons que nous devrions tirer pour nous de la parole de Dieu. Et nous avons lu ce passage. À la suite de la persécution qui a éclaté à Jérusalem, les disciples ont dispersé et Philippe, l'un des diacres de l'église primitive de Jérusalem, s'est rendu en Samarie. Avez-vous déjà imaginé ce qui se serait passé autrement si Philippe n'est pas venu en Samarie, s'il n'y avait pas la persécution? Tous les disciples de Jésus rassemblés à Jérusalem auraient continué à vivre dans la chaleur et de l'amour communion fraternelle. Eh bien, comment aurait-il été possible que le message de l'Évangile soit porté en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? En l'absence de persécution, les disciples se seraient blottis les uns contre les autres pour se réjouir la vie chrétienne. Mais qui peut comprendre les desseins de notre Dieu d'amour omniscient? Et nous avons cette tendance de rester dans notre confort chrétien. Mais nous ne voulons pas bouger de notre confort. Une fleur qui s'épanouit doit parfois être emportée par des vents violents pour tomber sur le sol, pour se multiplier. Une fleur donne toujours son doux parfum, même lorsqu'elle est piétinée sous vos pieds. On est de même pour les disciples de Jésus-Christ. Et nous lisons ici, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Même si, pendant la persécution, Philippe il s'enfuit vers Samarie, mais il continue à prêcher. Même dans le passage que nous avons lu, et Pierre et Jean, quand ils retournèrent à Jérusalem, Il prêchait la parole partout où il passait. Il prêchait Christ à Jérusalem. Il le prêchait aussi que Christ en Samarie. Il n'y avait pas d'autre chose à prêcher. Il n'y avait pas d'autre personne à prêcher quand il autre que prêcher Jésus et le message de la croix. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Philippe a aussi accompli des miracles. C'est évident que l'Esprit Saint, il était en Philippe, en opérant ses prodiges. Spécialement dans le livre d'Actes, nous voyons les miracles comme un signe pour assurer aux auditeurs de l'Évangile qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler ici qu'il n'avait pas la parole de Dieu complète comme nous l'avons aujourd'hui. Isaïe 9, 2 à 3, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Telle était la situation en Samarie, quand Philippe entra dans cette ville. Nous voyons dans le verset 8, et il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe se rendit dans la région de Samarie pour prêcher Christ, pour prêcher que le Messie était venu et pour faire connaître ses enseignements. Les mêmes vérités avaient déjà été énoncées en Samarie par notre Sauveur lui-même. Peut-être la raison pour laquelle ils ont reçu la parole avec joie. Nous voyons dans Jean chapitre 4 ce qui s'est passé. Jésus a rencontré cette femme samaritaine et je vais lire ce passage, Jean 4, 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le champ avait été préparé par Jésus lui-même. Il a dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et le verset 35 de chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc Jésus, il a pu voir, un Dieu omniscient, il a pu voir ce que se passerait quand Philippe il va venir en Samarie. C'est dans ce domaine que Philippe entre et qu'il est béni dans son travail. Tournons-nous vers nos Bibles jusqu'à verset 9 de chapitre 8 du livre des Actes. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, s'en donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Et l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Nous avons vu que l'Évangile avait été prêché aux Samaritains par le Seigneur lui-même lors de la rencontre qui a changé la vie de la femme samaritaine à Sichar. Sichar, c'est un village ou une petite ville. Le Seigneur s'y attardera encore 2 jours. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, et n'importe où, il faut savoir que le diable est aussi occupé à y travailler. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, le diable est aussi là pour il est en train de travailler. Et il peut être même dans ce lieu. Vous pouvez demander comment le diable peut entrer, mais le diable, il était même dans la présence de Dieu, dans le livre de Job. Nous voyons que Simon a opéré en Samarie. Il y avait quelqu'un qui s'appelait un autre personnage. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Elimas à Chypre. dans le livre d'Actes, Satan était présent même à l'aube de la création dans le jardin d'Éden, voulant gâcher le plan de Dieu. Et s'approcher d'Adam et Ève, chacun d'eux apparaît à deux points stratégiques de l'avancée de l'Évangile, cherchant à contrecarrer sa marche en avant. Satan s'efforce toujours de garder son royaume intact et résiste farouchement aux attaques des serviteurs de Christ. Je pense qu'il serait profitable pour nous de jeter un coup d'œil sur cet incident également. Donc, Actes chapitre 13, gardons un doigt sur Actes chapitre 8. Nous allons voir dans Actes chapitre 13, versets 4 à 12. Actes chapitre 13, versets 4 à 12. Si nous voyons Paul et Barnabas, il est mentionné encore comme Saül, hein? Actes chapitre 13, verset 4. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Il avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisant opposition, cherchant à détourner de la foi de foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » C'est encore un miracle. Mais plutôt, nous devons voir comment le diable travaille pour empêcher l'avancement de l'Évangile. Donc, chaque fois nous annonçons la parole de Dieu, chaque fois la parole est prêchée, le diable aussi est en œuvre pour empêcher que nous entendons, que nous comprenons la parole de Dieu. Simon était un sorcier dont le pouvoir vient de démons et de Satan. Avec Simon, Satan a utilisé l'infiltration. Simon était une figure divine en Samarie. Les gens, ils pensaient qu'il était même Dieu. Il l'appelait le Grand. Il pensait qu'il exerçait une figure divine en Samarie, exerçant une immense influence par ses pouvoirs magiques. Sa place a été menacée lorsque Philippe est venu avec l'Évangile et que le nombre de Samaritains se sont convertis. Avec Elymas, Satan a utilisé la tactique de l'opposition. C'était un juif opposant, apostat et un faux prophète. Il avait d'influence sur le proconsul romain de Chypre. Lorsque le gouverneur voulut entendre la parole de Dieu, de Barnabas et Saül, Elymas se mit en action pour le détourner de la foi. Satan déteste l'éclat de la lumière, de la vérité, utilise tous les moyens pour garder les gens dans les ténèbres. L'une des principales façons dont il le fait est d'avoir de faux enseignements. Paul dénonça Elymas comme un instrument de Satan et prononça sur lui la sentence de Dieu d'aveuglement physique pendant un certain temps. Cela a pris effet immédiatement. Le proconsul fut étonné par ce signe dramatique de la vérité de l'enseignement du Seigneur et il a cru. Élymas représente la corruption de la religion et l'aveuglement des yeux de l'homme par l'erreur religieuse. Le diable utilise toujours la même tactique, même aujourd'hui. On peut peut-être trouver un autre exemple de ce genre en Macédoine. Macédoine, c'est Actes chapitre 16. Si vous voulez, je vais lire à partir de versets 16 à 18. Actes 16, 16 à 18. Même ici, nous voyons comment Satan, le diable, il est en train d'empêcher la propagation de la parole de Dieu. Qu'il est empêché les gens peut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Actes 16, 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et parfois, le diable utilise la ruse pour nous faire monter, pour élever, pour glorifier, pour passer un autre message. Et là, c'était la publicité gratuite pour Paul et les serviteurs de Dieu. Mais ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Il n'y a rien qui est mal, ce qu'elle a dit. Mais Paul, il a pu comprendre cet esprit. Il a demandé cet esprit de se taire. Nous trouvons ce phénomène bien illustré dans la parabole que Jésus a donnée à ses disciples. Tournez avec moi au Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir des versets 24 jusqu'à 30. Matthieu chapitre 13. Versets 24 jusqu'à 30. C'est la parabole de semeur. C'est la deuxième parabole dans cette série. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans son champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Je pense que ça parle bien, parce que quand la parole est prêchée, et aussi le diable il vient semer la confusion. Il vient semer autre chose que la parole de Dieu. Le semeur a semé de bonnes semences dans son champ pour une bonne récolte de blé. Mais dans l'obscurité de la nuit, un ennemi est venu et semé livré parmi les blés. Ainsi, lorsque les plantes sont apparues, sont portées du grain, les mauvaises herbes sont également apparues. Mais il y a une différence entre la bonne semence et celle qui ne l'est pas. En tant qu'auditeurs de la parole de Dieu, possédons-nous le discernement spirituel. La différence entre l'ivraie et le vrai blé n'est évidente que lorsque les plantes mûrissent et que les épis apparaissent. L'épi du vrai blé sont lourds et s'affaissent, tandis que l'épi de l'ivraie se tient droit. Le Seigneur a dit qu'un arbre il peut être connu par ses fruits, mais sinon tous les arbres sont pareils. Maintenant, à partir de verset 13, nous revenons à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 13. Maintenant, à partir de verset 13, nous voyons le vrai problème de cet homme. Le passage nous dit que, avec la multitude, Simon le sorcier a également cru et s'est converti. Quand la foule entière vient vers le Seigneur Jésus-Christ, et dans la foule se trouve Simon le sorcier également. Nous voudrions crier gloire à Dieu et passer à autre chose. Quand nous voyons une grande foule qui vient vers le Seigneur, on a envie de crier gloire à Dieu. Non, il est absolument nécessaire de s'arrêter et de lire attentivement ce qui est dit dans le texte. Verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitte plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Qu'est-ce que Simon a fait en suivant Philippe partout? Qu'est-ce que Simon a fait en suivant Philippe partout? Un examen plus approfondi de ce verset nous montre que Simon s'est concentré sur le signe et des miracles. Le passage ne dit pas que le message prêché par Philippe l'a captivé. Au lieu de cela, par ses propres paroles et actions, Simon ne s'intéressait qu'à la façon dont il pourrait prospérer financièrement en utilisant le Saint-Esprit. Si vous voyez le verset 10 à 11, même les Samaritains étaient comme Simon. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Je pense que l'un des signes de votre conversion devrait être que vous cessiez de suivre les hommes et de les idolâtrer au lieu de suivre Jésus. On peut être converti dans n'importe quelle église, par n'importe quel serviteur de Dieu, mais nous suivons une église, un mouvement, un serviteur, ou nous suivons Jésus-Christ. Dans le même chapitre, quelques versets plus bas, nous voyons l'Éthiopien qui a été baptisé par Philippe, a poursuivi son chemin en glorifiant Dieu. Et le verset 10, verset 39, acte 8, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. » Et le verset finit en disant que l'Éthiopien, il a poursuivi son chemin en glorifiant Dieu. Mais Simon fut étonné de voir les miracles et les miracles qui s'accomplissaient, qui indiquent l'étonnement de Simon. Ces miracles pâlissaient en comparaison des miracles et des signes de Dieu qui avaient été accomplis par Philippe. Donc il a vu que le miracle que Philippe il a accompli, c'est plus grand que ce qu'il a fait. Et jusqu'à maintenant, c'était sa vie. Il est en train de gagner la popularité parmi le peuple. Il est en train de peut-être gagner l'argent aussi par ses moyens. Et donc maintenant, il est dans l'étonnement quand il a vu le miracle et le prodige que Philippe a opéré en Samarie. Pourquoi les gens écoutaient Simon? Parce qu'il les étonnait depuis longtemps par ses actes de magie, dit la parole. Pourquoi ont-ils cru Philippe et qu'est-ce que cela affirme? Parce qu'il prêchait les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. L'Évangile et le nom de Jésus-Christ dominent même la forteresse démoniaque de longue date. Parce que Simon, certainement, il est de ville de Samarie, Il était déjà là en train de prêcher, en train de faire ces choses. Les puissances démoniaques pourraient-elles être confondues avec de puissances divines aujourd'hui? Jésus a averti dans Matthieu 24:24, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Comment les signes démoniaques peuvent-ils être distingués de signes divins? Bien que les deux signes soient surnaturels, ils se distinguent par ce qu'ils indiquent. Le signe surnaturel qui s'indique Jésus l'honore. Il honore Jésus, il serve Jésus-Christ, il glorifie Jésus-Christ. Le signe surnaturel qui désigne honore, serve ou glorifie quoi que ce soit ou quelqu'un d'autre, y compris le pasteur ou les chrétiens morts, ne sont pas de Dieu. Si ce qu'on fait, ça ne glorifie pas Dieu et son royaume, et le royaume de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Les versets suivants nous révéleraient le vrai caractère de cet homme. Regardons à partir du verset 18 jusqu'à 24. Actes chapitre 8, 18 à 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, « Accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc, dans ce passage, nous voyons vraiment qu'est-ce qu'il est, cet homme. Qui est cet homme? Simon a également professé sa conversion et s'est fait baptiser. Il était stupéfait des signes et des prodiges accomplis par Philippe qui faisait de l'ombre à sa propre miracle. Quand il vit les apôtres capables d'accorder le Saint-Esprit aux Samaritains, par la prière et l'imposition de main, il leur offrit de l'argent, cherchant à acheter cette puissance pour lui-même. Certaines personnes ne se rendent pas compte que tout ne peut pas être acheté avec l'argent. Et dans le société que nous vivons, la société à très consommateur, on pense qu'on peut acquérir tout avec l'argent. Même, ça peut jouer dans l'église. Pas parce que je mets une certaine somme dans le boîte d'offrande. Dieu me doit quelque chose. Il y a des choses qui ne se vante pas non plus. Cela révéla son vrai caractère quand Pierre le discerna clairement. Il pensait que la puissance de l'esprit n'était qu'une force plus puissante que les forces démoniaques qu'il avait utilisées auparavant. Il voulait renforcer son prestige et augmenter ses revenus. Simon représente la commercialisation de la religion chrétienne, une tâche tragique sur l'histoire de l'Église, mais aujourd'hui nous voyons encore plus clairement dans l'émission télévisée des pasteurs entre guillemets chrétiens qui vendent l'Évangile. Lorsque nous lisons l'histoire de cet homme, Simon le sorcier, nous avons certainement quelques questions à nous poser sur sa conversion. Bien que nous lisions clairement que Simon a aussi cru qu'il a été baptisé, sa conversion était-elle réelle? Et qu'en est-il de son baptême? La grande question de ce passage est de savoir si Simon s'est vraiment converti. Il a entendu l'évangile proclamé et a vu beaucoup de signes et de prodiges. Certains le soupçonnent d'avoir des arrière-pensées. Le verset 13 nous dit « Simon crut et fut baptisé. » Comme tous les autres. Simon crut et fut baptisé. Croyait-il vraiment ou allait-il avec les autres avec un motif ultérieur? Où s'est-il glissé dans l'Église pour accéder au pouvoir? Quel était le fondement de sa foi, l'enseignement des disciples ou le miracle qu'il accomplissait? Simon avait-il la foi en Dieu ou la foi en la foi, le pouvoir de la croyance? Je ne sais pas, vous comprenez ce que je dis, la foi en foi. De nos jours, il y a une nouvelle éclosion de prédicateurs qui prêchent qu'il faut croire pour obtenir ce que l'on veut et qu'il faut être précis dans sa prière, la prière de la foi. Si vous voulez une voiture rouge, croyez que Dieu vous la donnera et priez avec foi, ce qu'il enseigne. Pourquoi pensez-vous que Simon est venu avec d'autres et confessé sa croyance à Philippe et s'est fait baptiser? Il imitait probablement des autres. C'est très facile. Hein? Je pense qu'on imite, nous sommes tous des imitateurs. Hein? On imite les uns les autres. Et soit c'est la mode, ou la façon, la société, il développe, il vit. On essaie d'imiter les autres. Personne ne peut dire que je suis 100% original. C'est vrai. Nous sommes tous la produit de cette communauté, de cette société. On imite. Mais dans la question de la salut, la foi, est-ce que nous sommes en train d'imiter les autres? Et notre foi, elle est fondée sur Jésus-Christ seul. Nous devrions poser cette question à nous-mêmes. Jugez-en par vous-même, car les érudits ne sont pas d'accord et le texte n'est pas défini. Définitive sur ce point. Je me demande dans quelle mesure Simon comprenait le christianisme, la bonne nouvelle, l'évangile, au-delà des bases, des choses très basiques. Il est facile pour les nouveaux croyants de commettre des erreurs lorsque leur connaissance globale d'écriture est faible. Nous n'augmentons pas notre connaissance en assistant à l'Église régulièrement, pas parce que nous sommes chrétiens depuis de nombreuses années, nous avons une grande connaissance, on peut remplir la tête avec la connaissance. Ce n'est pas ainsi que nous remplissons, nous croissons dans notre connaissance. Et donc, nous devrions être imprégnés dans la parole de Dieu. Nous devrions lire la parole de Dieu, connaître le Seigneur comme notre sauveur personnel. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas, bon, bien que dans la Bible, nous trouvons souvent Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Est-ce qu'il est toujours le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ou c'est votre Dieu? Est-ce qu'il est notre Dieu aujourd'hui? On peut référer Dieu comme Dieu d'Abraham, Isaac, pour sa fidélité. Et c'est ainsi que Dieu l'a introduit lui-même à Moïse. Même de nos jours, nous trouvons toutes sortes de gens qui entrent dans l'Église. Des personnes d'autres religions. Il y a des athées, des gens qui croient en toutes les religions aussi. Et mes amis hindous, ils disent souvent, comme tous les fleuves, ils vont aller tomber dans l'océan, et toutes les religions vont vers Dieu. C'est vrai que tous les fleuves, ils tombent dans le même océan. Mais est-ce que toutes les voies sont pareilles? Est-ce qu'ils l'amènent vers Dieu? Mais Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et des gens qui croient en toutes les religions de tous les horizons, ils viennent Et c'est exactement l'appel de Jésus. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, du repos. Tout le monde est bienvenu dans l'Église du Seigneur. Mais que attendez-vous? Quand vous venez dans ce lieu, qu'est-ce que vous entendez? Peut-être avez-vous pensé à quelque chose en entrant dans une église, mais qu'avez-vous compris maintenant? Qu'attendez-vous maintenant? Certaines personnes disent qu'elles croient en Jésus-Christ simplement comme souscrire à une assurance tout risque. S'agit-il d'une foi sincère ou d'une superstition? Nous devons examiner nos motivations, nos raisons de venir à Christ. Qu'est-ce que vous motive de venir vers Christ? Certains veulent se faire baptiser comme si l'eau avait un pouvoir spécial pour les sauver, comme si c'était une étape à franchir ou une case à cocher, comme un permis de conduire, une licence pour être membre d'une église. Sans une foi sincère, nous pouvons participer à toutes sortes de rituels religieux tout en restant perdus et sans salut. Regardez le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Premièrement, il faut comprendre que l'Esprit n'est pas une marchandise que nous commandons, mais une personne qui nous commande. Mais aujourd'hui, on peut commander les marchandises, des choses par Internet, on peut les recevoir. Mais est-ce que nous pensons que l'Esprit Saint est aussi est une marchandise qu'on peut commander? C'est du contraire, c'est l'Esprit Saint qui nous commande. Les gens sont attirés par l'effervescence. Il y a la musique, il y a la lumière. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi l'Église du Seigneur devrait être de cette façon. Il y a de lumière de toutes les couleurs, il y a la musique, il y a la fumée, il y a la danse pour attirer le monde. Les gens sont attirés par l'effervescence et le divertissement. Simon le sorcier a étonné les habitants de Samarie avec ce tour impressionnant et sa personnalité dynamique. Mais quand Philippe, Pierre et Jean arrivèrent dans la ville, ils rencontrèrent une véritable puissance de guérisons miraculeuses, indubitables, qui attirèrent son attention. C'est complètement autre chose. Ce n'est pas la même chose qui était en Samarie. La grande différence entre Simon et les disciples, c'est qu'ils ont donné à Christ le crédit et l'attention, pas eux-mêmes. Ils n'ont pas prêché eux-mêmes. Ils n'ont pas glorifié eux-mêmes. Simon se vantait d'être appelé la grande puissance. Chaque fois qu'un ministre se concentre sur une personnalité qui exalte elle-même au lieu de Christ, il y a un sérieux problème. Des chefs de sectes dynamiques et d'autres faux enseignants revendiquent un pouvoir et une perspicacité particuliers, trompant beaucoup de gens. Nous ne nous laissons pas égarer. Ne nous laissons pas égarer. Simon voulait savoir comment puiser dans la puissance de l'Esprit Saint, qu'il reconnaissait comme supérieur à ce qu'il avait. Il pensait qu'il pouvait acheter ce pouvoir. La proposition de Simon ressemble à l'offre de payer un magicien pour révéler son secret. Comment il a scié quelqu'un en deux. Et Simon, c'est un magicien, donc il a pensé que dans sa profession, il voulait acquérir une autre technique pour faire étonner les gens. C'est pourquoi il voulait que Pierre et Jean, ils donnent ce pouvoir pour qu'il peut imposer les mains sur les autres pour recevoir le Saint-Esprit. Il a essayé d'acheter ce qui était divin. À l'époque médiévale, l'Église catholique vendait des indulgences affirmant que les gens pouvaient acheter leur sortie du purgatoire. Quand quelqu'un commet un péché, Si c'est un petit péché, il va payer 10 euros, par exemple. 10 euros, il n'était pas à l'époque. Et si c'est un grand péché, il va payer peut-être 50 euros. Si c'est un meurtre, il va payer 1000 euros. Et c'est ainsi que l'Église catholique s'enrichissait. Et les gens, ils payaient pour échapper à le purgatoire. L'acte de Simon dans ce passage montre comment si Dieu était obligé de faire ce que nous voulons. Mais souvent, en tant que des enfants de Dieu, même nous, on pense faire comme Simon. On veut commander Dieu, on veut commander l'Esprit Saint, au lieu d'être obéissant au Seigneur. Les gens essaient-ils de marchander avec Dieu aujourd'hui? Beaucoup de gens pensent que le fait d'assister à un culte, au culte, et de donner de l'argent à l'Église est leur façon d'obliger Dieu à leur donner une vie confortable et sans problème. Quand des difficultés surviennent, ils quittent le Seigneur en supposant que Dieu les a laissés tomber. Dieu nous permet et il est patient avec nous, même si nous aimons faire des choses à notre manière. Mais son jugement est sûr. Et le Seigneur, il a dit, dans la parabole, hein, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Regardez le verset 20, acte 8, 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Vous savez, l'apôtre Pierre, il avait, le Seigneur il a donné beaucoup de dons. Ce n'est pas la même Pierre qui a régné le Seigneur Jésus avant sa crucifixion. Mais l'apôtre Pierre, il tient debout devant une foule de gens, il prêche. Avec courage la parole du Seigneur. Et quand, dans l'acte chapitre 5, je pense, dans l'histoire d'Ananias et Saphira, et c'est Pierre qui dit que comment vous avez osé de mentir au Esprit Saint. Donc, ici, nous voyons que l'apôtre Pierre confronte Simon en utilisant un langage assez fort. Simon pensait que le bénédiction pouvait être achetée. Simon voulait le Saint-Esprit. La question que nous posons est de savoir si l'Esprit est emparé de Simon. L'Esprit n'est pas une marchandise, mais une personne. Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Les religions primitives utilisent la magie pour essayer de contrôler ou de manipuler Dieu, pour obtenir ce qu'elles veulent. La vraie religion, le christianisme, se rend compte que Dieu est aux commandes et qu'il choisit ce qu'il est le mieux pour nous. La foi repose dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un génie que nous commandons. Il est Seigneur et c'est lui qui nous commande. Si je pense que quelqu'un a de la fièvre, je peux utiliser un thermomètre pour le savoir. Mais nous n'avons pas d'instrument pour déterminer la foi authentique d'une personne. Comment on peut savoir la foi est authentique ou pas? Quand les gens veulent faire partie d'une église, ils déclarent qu'ils ont fait confiance au Jésus-Christ et qu'ils croient aux enseignements de la Bible. Nous acceptons leur profession de la foi. Parce que Dieu seul voit le cœur. Nous voulons faire preuve de discernement sans porter trop de jugement. Cependant, nous ne pouvons supposer pas non plus automatiquement que tous ceux qui viennent à l'Église sont des croyants. La preuve en est dans la façon dont nous vivons. Si notre foi porte du fruit, dans la première lettre d'apôtre Jean, il raconte comment certaines personnes ont quitté l'Église. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. Le Seigneur, il connaît ses brebis. Il connaît chacun de ses brebis. Il manquait d'une foi authentique et le départ l'a confirmé. La Bible nous exhorte à nous examiner nous-mêmes pour nous assurer que notre foi est réelle. Nous devons vérifier périodiquement notre propre température spirituelle. Ce n'est pas un autre qui peut comprendre. Pierre demande à Simon de se repentir. Le but de sa confrontation est la réconciliation. Ce n'est pas pour juger et condamner cet homme, mais le but de sa confrontation est la réconciliation. Simon demande alors à Pierre de prier pour lui. Ce sorcier sous-entendait-il que Dieu serait plus enclin à écouter Pierre que lui? Mais parfois, on attache trop d'importance à un homme. Mais souvent, les gens disent, « Priez pour moi, j'ai un terrible mal de tête. Priez pour moi. » On peut demander à un homme de Dieu, entre guillemets, pour prier. Il n'y a pas de mal. Mais est-ce que toi-même, tu pries pour ce problème? Peut-être on peut souffrir d'une certaine chose, une incapacité pour être dans le culte. On peut dire à tout le monde que priez pour moi puisque je peux assister au culte. Mais nous devrions faire ce que nous devrions faire. Nous devrions premièrement prier que le Seigneur nous libère de ces problèmes. Sans que nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas sincères pour prier pour notre défaillance, notre problème, et comment le Seigneur il peut nous aider. Les ministres sont souvent invités à prier par des gens qui ne parlent pas à Dieu eux-mêmes. Pierre pouvait certainement prier pour Simon, mais il ne pouvait pas se repentir pour lui. Seul Simon pouvait le faire. De toute évidence, Pierre a mis la crainte de Dieu en Simon. Espérons que la foi et de repentir de Simon, foi et pour repentir de Simon était sincère. Après cet événement, la Bible ne fait plus jamais référence à Simon, le sorcier. Les chrétiens aujourd'hui devraient inspirer du récit de Simon pour dire que l'Église, même aujourd'hui, doit se méfier de ceux qui se prétendent posséder des capacités surnaturelles et de ceux qui prétendent être chrétiens et qui désirent acheter le don de Dieu avec de l'argent. Et on peut essayer d'acheter le don de Dieu avec l'argent ou par une autre devise. On peut penser que je peux acheter le don de Dieu par mon comportement, par une autre façon. Il y a des gens qui comportent d'une certaine manière dans ce lieu, mais dehors, ça peut être autre chose. Est-ce que nous avons le même comportement dans notre vie? Un chrétien ne devrait pas être comme un caméléon qui change son couleur selon l'environnement. L'apôtre Pierre dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et je vois que tu as une fiel amère et l'iniquité dans ton cœur. Mais il faut savoir que le Seigneur, quand un homme il convertit, quand une personne convertit à Christ, ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas comme si on amène une voiture de la casse pour retaper, pour faire rouler. Ce n'est pas ainsi leur vie chrétienne. C'est, c'est comme une nouvelle voiture. Ézéchiel 36, 26, on lit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous obéirez mes lois. » Donc, quand le Seigneur il touche le cœur de quelqu'un, il devient un nouvel homme complètement, une nouvelle personne. Ce n'est pas la même personne. Il ne fait pas le maquillage pour ressembler à un chrétien. Soit il est chrétien, sinon il n'est pas. Il devient une nouvelle création. Ce que dit en 2 Corinthiens l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est un enfant de Dieu, on ne essaie pas d'acheter les choses. Nous attendons avec patience que le Seigneur nous donne. On ne peut pas arracher des choses de la main de Dieu. Que le Seigneur nous donne la patience pour attendre à ses pieds, pour qu'il nous utilise. Et moi, je ne peux pas aller devant le Seigneur dans les choses. Je suis appelé à le suivre plus fidèlement. Et l'apôtre Pierre, en acte 4, 12, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. C'est le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à jamais. » Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous as donnés pour regarder, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, la vie de cet homme, Simon, Seigneur, pour cet exemple, pour ce mauvais exemple, comment il se comportait pour faire semblant de suivre. Seigneur, nous ne connaissons pas la sorte de cet homme, mais tu le connais. Seigneur, mais égare-nous, Seigneur, garde-nous nous n'ayons pas cette qualité de cet homme en nous. Que Seigneur, que nous avons ton Esprit Saint, Seigneur, donné gratuitement par toi, le Consolateur, qui révèle toutes choses à nous. Premièrement, Seigneur, tu révèles à nous notre péché, nos péchés et notre état misérable. Que nous sommes des pauvres pécheurs, nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde et ton salut. Seigneur, merci d'avoir nous sauvé, chacun. Seigneur, même si aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur, parle dans son cœur à travers de ta parole. Seigneur, nous nous soumettons sous la gouvernance de ton Saint-Esprit. Que Seigneur, nous soyons les enfants obéissants. Seigneur, en train de te suivre pas à pas. Seigneur, amène-nous où tu voudras. Et nous, Seigneur, épargne-nous de ne pas aller devant toi, de ne pas aller dans les lieux que tu ne veux pas que nous ayons. Seigneur, nous te glorifions, Père. Nous te louons pour tout ce que tu es. Nous adorons ton saint nom, le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Que le diable et le Satan qui tremblent. Seigneur, à toi soit toute victoire, louange et honneur pour aujourd'hui et à jamais. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.